ne suis pas un philosophe ou un politique. Je prête vie à des êtres imaginaires, quelque part entre ciel et terre, à l'écran et sur la scène, mais je vis dans le monde réel et depuis sur terre. L'injustice et la douleur de ce monde résonnent en moi comme en vous. Saltimbanque, oui peut-être, mais pas somnambule.
Faire un film sur mon temps, c'est faire un film sur l'engagement. Comment faire autrement ? C'est raconter le XXe siècle, forcément, ses grandes tragédies et ses grands récits. Des crèves-la-faim fuyant le fascisme italien à l'effondrement du bloc communiste dans les années 80. C'est fouiller l'histoire des gauches françaises, de leur cause commune à leur mortelle dissension. C'est scruter la trajectoire d'un homme parti de rien et arrivé tout en haut de l'affiche. Chanteur jamais en rythme, acteur qui ne comprenait pas le cinéma, star à Hollywood qui ne parlait pas l'anglais. Prolo arrivé tout en haut à force de travail, de volonté, de séduction, hanté, toujours hanté à l'idée d'avoir trahi les siens.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Qu'il le veuille ou non, pour ne pas faire le jeu de la sacro-sainte droite, on s'associe avec des gens qui considèrent que le goulag, que les asiles psychiatriques, que l'invasion de l'Afghanistan, que d'abattre l'avion avec 300 passagers à bord, presque 300 passagers, est une chose globalement positive. Mais comment voulez-vous vous taire ? Qui que vous soyez ! Et j'ai la possibilité de le dire et je ne vais pas le dire. Mais qu'est-ce que ça me fout d'avoir du pognon, de vivre confortablement, si je dois vivre dans une société de mensonges, ou qu'on essaie de me faire croire que ces mensonges-là sont une vérité ?
Je crois qu'on vous a bien compris.
J'espère, c'est pas sûr.
Enfin, en tout cas, pour ce que vous
avez dit. C'est pas sûr, parce que reconnaître cette imposture, cette abominable et sanglante imposture, c'est rejeter en même temps l'être que j'aime le plus au monde, qui est mon père.
Joli, mais notre amour était bref. L'été vient.
France 3, 21h, mon temps est à nous tous, nés au XXe siècle. Et je suis fière d'être née au XXe siècle. Mais à vous en particulier, aujourd'hui, Yves Geland, qui avait usé le 33 tours de son concert à l'Olympia. Bonjour.
Bonjour.
Et à vous, Vincent Josse, mon ami et confrère, le Grand Atelier sur France Inter, chaque dimanche à 15h. Vincent, qui avait présenté le journal et annoncé sa mort sur France Inter en ce jour de novembre 1991. Yves Montand, je l'ai dit, une histoire du XXe siècle.
Le nombre de gens qui parlent de ce livre sans l'avoir lu, c'est quelque chose d'aberrant, y compris, et ça c'est beaucoup plus grave, chez les militants. Ils ont peur, et ils ont peur de quoi ? Ils ont peur d'affaiblir. Parce qu'ils ont cru dans le socialisme d'une façon religieuse, et qui croient dans le socialisme d'une façon religieuse, comme j'y ai cru d'ailleurs d'une façon religieuse. Chez moi, il y avait ma mère, qui était italienne, comme tous les latins, avait le crucifix, et au-dessus, Staline. Et il est resté longtemps, même après le rapport Khrouchtchev à la maison.
Yves Geland, j'aimerais que vous nous racontiez d'où vient Yves Montand ? Parce qu'au fond, ses origines, elles vont lui coller à la peau et elles vont lui coller au cerveau toute sa vie.
Il vient d'une famille communiste. Il vient d'une famille communiste qui a fui le fascisme au début des années 20. Mmh. Et lui, il a peu de souvenirs de l'Italie, de la Toscane, de Montezumano, où il a vu le jour en octobre 1921, parce qu'il arrive à 2 ans et demi à Marseille. Et s'il n'a pas de souvenirs de l'Italie, en revanche, il est profondément pétri de cette culture communiste, des engagements de son père, même s'il s'engagera moins rapidement que son frère aîné, qui lui restera communiste toute sa vie et permanent de la CGT. Montand vient d'un milieu ouvrier, Montand va chanter les ouvriers, et donc j'écoutais hier par hasard une vieille archive de la joie de vivre de Radio France, et où on en disait, il se faisait applaudir parce qu'on disait il n'a jamais oublié ses racines.
Il n'a jamais oublié ses racines, Vincent Josse. C'est un homme qui a été pétri par la honte d'avoir été un miséreux.
Il disait qu'il appartenait au sous-prolétariat du sous-prolétariat. Mmh. Il en a énormément parlé. Il a toujours fait d'ailleurs attention aux autres Montand. Beaucoup de gens ont demandé de l'argent à Signoret et à Montand tout au long de leur carrière, de leur parcours. Ils venaient frapper Place Dauphine, puisqu'ils habitaient la roulotte, comme on l'appelait, ce lieu 15 Place Dauphine à Paris, du côté du Pont-Neuf. Et ils venaient demander de l'argent, une femme qui avait perdu un mari, un homme qui n'avait pas de travail. Et sans arrêt, et ça, Catherine Allégret a retrouvé les bons. Donc c'est vraiment la preuve de leur générosité. Ils donnaient de l'argent.
Catherine Allégret, donc, qui est la fille de Simone Signoret.
De Signoret, fille d'Yves Allégret, mais reconnue à la mort de Signoret par Montand comme sa fille. Donc ils ont une générosité.
Et Montand, c'est ce qu'on appelle un transfuge de classe dans Absolument. Le jargon aujourd'hui. Oui. C'est quelqu'un qui sera quand même toujours inquiet, éternellement inquiet de ne pas en être, toujours de ne pas en être et d'avoir trahi ses origines.
Oui, à tel point qu'il parlait de lui presque comme Alain Delon à la troisième personne. Oui. C'est-à-dire que le gars qu'il voyait en scène ou qu'il imaginait devant le public, il disait il se place là, il va venir là, parce qu'il était tellement émerveillé d'en être, c'est-à-dire ouais. un des grands artistes du musical, il n'y croyait pas et puis il le voyait, il se mettait à distance de ce personnage-là.
Voilà, sujet d'angoisse, hein, vous
Mais
dites.
Sans arrêt, du sans matin au soir. C'est ça. C'était un homme inquiet et qui ne rendait pas forcément son entourage heureux, tellement il était angoissé.
C'est et complexé, ça. Complexé par son accent, complexé par ses fautes de français ou fautes d'orthographe, et toujours essayer de donner le change, il le dit à ses débuts en souriant à tout le monde, et puis ensuite en essayant de faire le pitre, souvent. Comme Chaplin d'ailleurs, j'ai fait un film sur Chaplin, et on retrouve ça, c'est-à-dire que il fait ce qu'on attendait de lui, et de rattraper le temps perdu en lisant, se cultivant, rencontrant des intellectuels.
Yves Jelan, c'est un film sur les dilemmes qui ont crucifié un homme tout au long de sa vie. J'aimerais que vous nous le racontiez, ce voyage à Moscou. Ce voyage à Moscou qui a été le fruit d'une tension et d'une déchirure et d'un déchirement sur lequel il faudra s'expliquer finalement tout au long d'une vie.
Oui, nous sommes en décembre 56 et quelques semaines avant, les chars russes sont rentrés dans Budapest et ils ont écrasé une sorte de révolution tranquille et démocratique. Ils l'ont écrasé dans le sang. Et évidemment, Montand avait prévu avec ses musiciens, il était invité à faire une tournée dans les pays de l'Est, à Moscou, mais aussi dans tous les autres pays satellites, comme on disait, de l'autre côté du rideau de fer. Et donc là, oui, c'est tempête dans les crânes pour Montand, Signoret qui l'accompagne, et tous leurs amis. Est-ce qu'il faut y aller? Est-ce qu'il faut pas y aller? Il décide d'y aller. Il y a un des musiciens qui dit non, je vous suis pas. Et puis il est reçu de manière magnifique.
Et là, vous avez des images et des archives incroyables. Tout a été tourné par le régime, Vincent Josse.
Alors ouais. ça, c'est Yves qui peut vous répondre, ouais. parce qu'il a travaillé directement avec Aude Vassallo, qui est une immense ouais. archiviste. Il va vous dire d'où viennent
ces images absolument incroyables de cette tournée officielle qui durera 4 mois.
Elles viennent du régime, ouais. et c'est vraiment un document de propagande, qui ensuite existe aussi chez Pathé Gaumont, dont j'ai eu la chance d'avoir d'ailleurs une bobine originale lors d'une vente aux enchères, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Et oui, c'est des images qui sont, ils savaient très très bien filmer, les soviétiques, et donc on en a profité, elles ont été très bien restaurées d'autant plus, et on voit effectivement le peuple applaudir, alors avec tout ce que ça peut avoir de village Potemkin, mais il y a quand même... Ça a été un phénomène incroyable. D'ailleurs, cet homme, d'ailleurs, était aussi célèbre à un moment aux États-Unis qu'en URSS. Mais en URSS, lors de cette tournée, il y a plein de petits Yves et de petites Simone qui vont naître.
C'est ça.
Et même des jumeaux qu'on va appeler Yves et Simone. Et d'ailleurs, dans son livre La nostalgie n'est plus ce qu'elle était, Simone Signoret se demande ce qu'ils sont devenus. Et elle aimerait bien les rencontrer un jour. Et voilà, donc c'est...
Et on voit un Montand chanter devant des milliers, des dizaines de milliers d'ouvriers, et on comprend aussi son angoisse,
Alors,
a posteriori.
Alors, votre film, Vincent Josse, puisque vous l'avez coécrit oui. avec Yves Jelan, raconte aussi, évidemment, ce moment, cet autre moment de déchirure, c'est-à-dire le moment de rupture avec le Parti communiste. Pourquoi et quand?
Ça commence à partir de 56, ils reviennent de la tournée, ils n'en parlent pas à l'époque.
Hein.
Et moi j'ai travaillé sur Montand, sur son itinéraire politique quand j'étais étudiant en histoire, et j'ai vu qu'entre 56 et 68, il y a très peu d'interventions de Montand dans la presse, très peu d'interventions politiques. En fait, il se met en retrait parce qu'il est en train de rompre, certes avec le PC, mais avec sa famille. Et il va se fâcher avec son frère qui, lui, a des responsabilités au sein du Parti communiste. Ils vont se fâcher pendant 20 ans, ils se retrouveront quelques mois avant la mort de Montand seulement.
C'est Prague, hein. C'est Prague qui décide...
Alors, accès définitif, et là, Montand commence à s'exprimer dans les médias publiquement, de façon radicale. Mm-hmm. Par exemple, Segui, je connais pas, etc. Il devient vraiment un farouche adversaire du stalinisme et de toutes les formes de stalinisme qui vont suivre.
C'est ça, toutes les formes de totalitarisme.
Absolument.
en réalité.
Il est toujours de droite comme de gauche.
C'est ça. On va écouter Montand commentant ses débuts catastrophiques au cinéma. Il avait tourné avec Marcel Carnet, que lui avait présenté Edith Piaf. Ils ont été très amoureux pendant 2 ans avec Edith Piaf, et on va comprendre comment finalement la maturité au cinéma vient avec la maturité de l'engagement politique, ce qui est rare et totalement passionnant.
Non, moi je savais que j'essaierais de faire des choses, mais ça je le sentais secrètement, au fond de moi-même. Mais j'en ai pris un coup sur la tête. Et puis alors, à ce moment-là, les superlatifs de la presse, messieurs, dames, c'est quelque chose d'énorme. Il y a un gars qui sort et qui n'est pas très fort, vous le matraquez à tout va. La plus grosse déception de l'année, c'était Yves Montand, à ce moment-là, alors que c'était un rôle qui était écrit pour le père Gabin, et passe-moi l'impression, on remplace pas M. Gabin comme ça. Et j'avais 23 ans, et le rôle est écrit pour un homme de 45 ans, quand même.
Voilà. Yves Geland, donc début catastrophique au cinéma, il en a parfaitement conscience. Vous pouvez dire juste un mot sur le fait que ce film a été une catastrophe pour lui en tant qu'acteur, en tout cas des débuts assez ratés, et pourtant le début de la gloire, mais le début de la gloire en chanson.
Oui, oui, c'est vrai que Les Portes de la Nuit, il y avait un critique qui avait, dans le journal Ce Soir, intitulé son article « Les Portes de l'Ennui ».
Ah oui.
Et donc, c'est effectivement Montand qui en prenait plein la gueule dans,
vous l'avez
dans ce papier.
Ce film
oui, oui, je l'ai revu.
Et alors
mais esthétiquement, il est très beau. Hein. C'est ouais. quand même Marcel Carné, c'est Troner, c'est une photographie magnifique.
Mais Montand est très mauvais.
Mais voilà, c'est pas bon. Et Nathalie Nattier qui devait remplacer Marlène Dietrich, parce que si effectivement Montand devait remplacer Gabin, elle n'est pas meilleure non plus. Donc non, c'est on est loin du Jour se lève ou des Enfants du Paradis.
D'ailleurs, il a dit que son cinéma et son métier de comédien commençaient avec Costa Gavras, donc quasiment 20 ans plus tard.
C'est ça qui est absolument passionnant, c'est-à-dire qu'il commence avec Costa Gavras, il commence avec des films éminemment politiques et avec des rôles qui sont cruciaux en matière d'engagement.
Oui, vous parliez de la rupture et de est-ce que c'était Prague ou Budapest, c'était donc entre Prague et Budapest, mais effectivement, il la rend publique, visible, et de quelle façon ? Avec l'aveu. C'est vraiment l'aveu qui acte sa rupture avec le Parti communiste, avec ses engagements passés. Mais il faut, d'une certaine façon, attendre que son père ne soit mort pour qu'il arrive à faire ce film, d'une certaine façon.
Donc, tout en faisant des cauchemars, hein, en se disant « mais je suis en train de rompre, un, avec le PC, et encore une fois, deux, avec ma famille
ouais. ».
Voilà, mais toutes les chansons, ces films parlent de lui, même si c'est un interprète au cinéma et dans la chanson. Et pourtant, ces chansons sont faites pour lui et ces films, en tout cas pour beaucoup, les meilleurs, Sauté, Costa Gavras, Rapneau, oui, ça parle de lui. C'est-à-dire que César, c'est Montand, c'est César et évidemment...
Yves Geland, vous l'avez abordé un jour dans la rue, Montand.
Oui, 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 je l'ai abordé dans la rue, oui. Enfin, il est arrivé. Je l'attendais Place Dauphine et j'avais 15 ans. Voilà, j'ai pas eu la chance de Vincent Josse qui, lui, l'a abordé quand il avait 20 ans.
Ouais.
Quand Vincent avait 20 ans, pas quand Montand avait 20 ans.
Merci.
Et donc, j'avais 15 ans et voilà, moi, j'ai un adolescent de Carcassonne qui vient voir sa grand-mère à Paris et qui passe plus de temps à attendre Montand Place Dauphine qu'à
t'occuper de ta grand-mère.
Qu'à m'occuper de ma grand-mère. Et donc, un jour, il est arrivé, je l'ai abordé. Et il a été d'une grande gentillesse, il m'a fait rentrer chez lui. Bon, ça n'a pas duré très longtemps. Mais c'est des souvenirs qu'on n'oublie pas et oui, 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 c'est évidemment...
Vous dites du couple qu'il formait avec Simone Signoret, ils se sont rencontrés en 1949, vous dites c'est un amour foudroyant, vous dites c'est la rencontre de deux gauches, une gauche prolo et une gauche bourgeoise, intello. Écoutez comme il parle d'elle, c'est extrêmement émouvant, je trouve.
Simone, elle vous impressionnait ?
Oui, beaucoup.
Vous avez l'impression qu'elle savait beaucoup plus de choses que vous ?
Oui, oui, bien sûr. Elle était beaucoup plus cultivée que moi. Elle avait eu le temps, d'abord elle a fait... Elle est allée en classe pendant très longtemps, elle était au lycée, elle a passé ses deux bacs, elle était en Angleterre à l'âge de 14 ans, elle parle plusieurs langues, très bien. Moi j'étais, pas complètement, mais enfin je pourrais dire presque complètement inculte, enfin je n'avais aucune connaissance de... J'avais rien lu, j'avais l'expérience disons de la vie quoi.
Transfuge de classe un jour, transfuge de classe toujours.
Il est tellement honnête quand il s'exprime.
C'est
il n'a aucun filtre, Montand.
C'est ça. Et alors, vous racontez cet amour, cette espèce de socle, et en même temps, la fêlure Marilyn, l'aventure hollywoodienne, qui est folle, Vincent Josse.
Oui, puis ils ont vécu de longues années ensemble. Hein. Le couple a tenu jusqu'à sa rencontre avec Carole Amiel. C'est une longue histoire d'amour, et pleine de coup de gueule et de coup de cœur. Ils parlaient souvent de leur coup au cœur qu'ils avaient en commun. Ils se sont engagés de la même manière.
De la même manière. C'est-à-dire que des souvenirs d'enfance de les voir tous les deux à la télé, dans les manifs.
Dans les manifs. Ça n'existe plus de manifester aujourd'hui quand on est artiste.
Ouais.
Plus personne ne s'engage comme eux.
Non.
Plus personne ne pétitionne comme
non.
eux. Plus personne n'a ces fameux coups au cœur qu'avait Montand. Et vous vous souvenez, on avait l'impression parfois qu'il jouait un peu la comédie à la télévision, au dossier de l'écran, mais pas du tout. Il était d'une très grande honnêteté. Sa vie n'était faite que d'engagement.
Alors, d'une très grande honnêteté, en même temps, vous dites et l'un et l'autre, en exhumant les archives du Montant des années 80, devenu finalement une sorte de personnage de télé, faisant le show comme personne, faisant exploser les audimates, qu'il a été trop loin, qu'il oui. s'est perdu là-dedans.
Et Yves dit même qu'il choisit d'éteindre sa télé et de réécouter le disque de l'Olympia 81 quand Montant commence à, on va le dire, virer un tout petit peu à droite.
Hein, c'est ça, dit, vive la crise.
Voilà, vive la crise, la guerre en face. C'est pas ce qu'on préfère dans la carrière de Montant, mais il était entouré d'intellectuels et de politiques qui lui disaient, vas-y, tu peux être président. Il était le porte-voix de ces gens-là. Ces gens-là, c'est qui? C'est André Glucksmann, c'est Alain Minc, c'est Bernard Kouchner et c'est surtout son ami, il avait une admiration pour lui, l'écrivain Georges Champrin.
C'est ça.
Et tous croyaient en lui pour un avenir politique.
Oui, oui. D'ailleurs, il y a...
Si vous voyez ministre, enfin, Champrin était déjà lui.
Il y a un bouquin magnifique de Patrick Rothman.
Voilà,
qui
Ivo
raconte,
et Georges.
Voilà, Ivo et Georges, qui raconte le double itinéraire de Montant et de Champrin. Chanteur, évidemment chanteur, toute une vie de chansons.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette.
Il y a deux choses que je trouve extrêmement émouvantes dans ce que vous racontez, Yves Geland. C'est la première, il n'a jamais pu être en rythme. Et je me dis, ça doit bien raconter quelque chose de son inconscient, de son subconscient, de ses doutes, de ses angoisses. De cette trahison de classe.
De sa place.
Oui. De sa place. Il n'a jamais pu être en rythme. Et puis l'autre chose qui est très émouvante, c'est que tous ces musiciens sont italiens.
Oui, quasiment tous. Oui, oui. Mais il y travaillait beaucoup, oui, évidemment. Henri Crolla, qu'il aimait plus que tout comme un frère. Bob Castella, si fidèle, qu'il a accompagné jusqu'au bout. Et qui était à la fois son majordome, son ami, son métronome, son secrétaire. Et oui, c'est un homme qui
a toujours été inquiet. Parce que vous dites, il y a un moment, il chante la France. Vous dites, il chante la France. Il chante Prévert sur scène. Il est la France.
Il a été la
lui
France.
Lui qui est né en Italie.
Depuis le début, quand il commence au Moulin Rouge, à l'ABC, au Théâtre de l'Étoile, à l'Olympia, il est la France. Et puis il est la France.
La France qui sort de la guerre. Hein.
Mmh. Et
qui a besoin de joie.
Et il est la France aux yeux du monde aussi. Et c'est un des seuls, et le premier, je crois, artiste de variété qui va se produire au Metropolitan Opera de New York. Vraiment, il y a chez cet homme-là, oui, il est l'interprète de la France et des Français. C'est pas pour rien que Vincent et moi avons intitulé notre film « Montant est à nous ». Voilà, il est à nous, il est à vous.
Et alors, dans les archives que vous exhumez, les débuts de Montant sur scène, parce qu'on l'a oublié avec son chapeau de cow-boy, etc., en fait, on s'aperçoit que c'est aussi un corps Montant. Un corps, il est immense, il mesure 1m86.
Marilyn Monroe l'a dit, et c'est la plus belle phrase qui soit sur Montant, il chante avec son corps. C'est beau, hein? Et c'est vrai, il a inventé une gestuelle pour la plupart de ses chansons. Il travaillait chaque chanson, comme on travaille un rôle au cinéma. Hein. Pour lui, une chanson, c'était un petit scénario, il avait raison. Et ça, c'est passionnant de voir Montant à l'œuvre et de retrouver dans les archives, encore une fois, d'Aude Bassalot, cette capacité à inventer un personnage. Voilà, ouais. C'est ce qu'il aimait. Et puis, de toute façon, il voulait faire du cinéma dès le départ, Montant. Donc, finalement, il faisait du cinéma avec ses chansons sur scène. Et il triomphait, Montant. C'était inouï le triomphe de Montant dans les années 50.
Montant est à eux, Vincent Josse, à dimanche. Vincent Josse, pour le Grand Atelier.
Merci.
Montant est à lui, Yves Geland, qu'il a tant aimé. Et le film Montant est à nous est sur France 3 à 21h. C'est la fin de l'émission. Merci d'avoir été mes invités.
Merci beaucoup.
Tous les deux ce matin.